On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur France Bleu pour On se dit tout. C'est un sujet polémique, un peu tabou qu'on va aborder aujourd'hui, mais pourtant primordial, la place de la religion à l'hôpital. Alors quelle religion, vous vous dites peut-être? Alors oui, c'est vrai, a priori la France est un pays laïque, il ne devrait pas y avoir de place pour la religion, ou alors pour toutes les religions. On va en parler aujourd'hui. Vous avez peut-être été choqué lors de votre séjour à l'hôpital quand un aumônier est venu vous rendre visite sans que vous l'ayez demandé. Vous avez du mal à vous faire soigner par un homme au nom de votre religion. Dans votre culture religieuse, on ne se déshabille pas, on n'accepte pas la transfusion. Et puis bien sûr, le personnel soignant est largement amené à témoigner aussi. Est-ce que vous trouvez que la religion prend trop de place à l'hôpital? 0810 055 056 pour nous rejoindre en compagnie d'Isabelle Lévy, auteure de Menaces religieuses sur l'hôpital aux éditions Presse de la Renaissance. Bonjour Isabelle Lévy.
Bonjour à vous.
On le voit dans votre livre, la religion, parfois poussée à l'extrême, peut être une entrave aux soins et même carrément à la vie.
Absolument, mais c'est une très mauvaise interprétation des textes religieux, bien évidemment, puisque toutes les religions exigent qu'on transgresse tout interdit pour sauvegarder une vie ou sauvegarder l'intégrité physique ou mentale. Donc normalement, les religions ne devraient pas poser problème, ne devraient pas être une entrave aux soins, mais au contraire, permettre tous les soins à l'hôpital.
Alors pourquoi ça se passe si mal? Pourquoi est-ce qu'on voit aujourd'hui que
problème d'interprétation.
Voilà, c'est de l'interprétation uniquement.
C'est de l'interprétation, parce que nous sommes dans un pays laïque. Que signifie pays laïque? Nous sommes un pays où il n'y a pas de religion d'État depuis 1905. Néanmoins, chacun est libre de pratiquer ou non une religion, de la pratiquer comme il l'entend, de se convertir, de douter, etc. Mais mes pratiques doivent toujours être en accord avec la loi. Donc oui, la loi française autorise la pratique religieuse de partout, c'est-à-dire dans la vie privée, mais aussi dans les institutions publiques qui hébergent les usagers, comme l'hôpital, la maison de retraite, les prisons, les armées, les internats. Donc, il est normal que dans ces lieux, on trouve des équipes d'aumônerie et que les usagers puissent pratiquer leur religion, mais dans certaines limites.
Ah mais on va voir tout ça, on va parler de limites justement, et on vous attend surtout dès maintenant pour en parler avec nous sur France Bleu.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
On a le droit de porter des signes religieux, mais les vêtements doivent permettre les soins. C'est la loi, c'est dans la charte du patient hospitalisé. Or, combien de patients refusent d'enlever certains de leurs vêtements? Combien de soignants doivent négocier parfois de longues minutes alors que la vie d'un patient est parfois en jeu? On parle religion et hôpital aujourd'hui dans On se dit tout. Quand la religion s'invite parfois un peu trop ou parfois à contresens, que vous soyez patient, croyant et choqué parce qu'on vous a refusé certaines pratiques, ou soignant, choqués aussi par certains comportements. Venez nous rejoindre pour en parler au 0810 055 056. C'est Isabelle Lévy, spécialiste des religions et auteure de Menaces religieuses sur l'hôpital, qui est notre grand témoin. Et on vous sent très en colère quand même, hein, quand on lit votre livre, parce qu'on se dit, vous avez vu ça pendant des années, vous avez alerté et on vous écoute pas vraiment, pas
non,
beaucoup.
Non, même encore aujourd'hui, on m'alerte encore et toujours, malheureusement. Il y a des situations extrêmement gravissimes. Il y a des personnes qui jouent leur vie, qui jouent parfois leur vie de l'enfant qu'ils portent, au nom soi-disant, je souligne, de leur religion, car aucune religion ne demande à quiconque de jouer sa vie ou de mettre en danger la vie d'autrui pour respecter un rituel quel qu'il soit. Donc en effet, les religions, on les interprète et malheureusement, on les interprète à défaut, c'est-à-dire qu'en fait, au côté négatif.
Et vous parlez de toutes les religions, parce
absolument.
Que on voit sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup et ça tourne beaucoup autour de l'islam, mais c'est pas que l'islam qui est pointé du doigt à un moment donné.
Ce n'est pas que l'islam, c'est quand même beaucoup l'islam sur le terrain, mais ce n'est pas que l'islam qui pose question. Et parfois, c'est de se dire, est-ce que je dois pas, lorsque je viens à l'hôpital, me faire soigner, ou j'accompagne une personne pour un soin, est-ce que je dois pas laisser quelques pratiques, je dirais, à la grille ou à la porte pour permettre le soin comme il doit être fait. C'est-à-dire que les soignants, sont, comme les médecins, sont des personnes extrêmement dévouées, sont prêtes à tout pour soigner l'autre, mais il faut encore les laisser faire. Ils n'ont pas de temps à perdre à négocier même quelques minutes. Vous êtes gentils, parfois c'est des quarts d'heure et des quarts d'heure entiers, alors qu'il y a des salles d'attente pleines. Ils ne sont pas là pour négocier, ils sont là pour appliquer des protocoles de soins qui ont été mis au point avec beaucoup d'attention pour éviter tout risque. Laissez-l'on faire et faisons confiance et laissons notre pratique religieuse quelle qu'elle soit, de côté le temps du soin. La religion est autorisée pour l'usager à l'hôpital, mais elle ne doit jamais aller à l'encontre de l'organisation des soins, de la planification des personnels et des protocoles.
Mais la religion à l'hôpital, ça veut dire aussi qu'est-ce que je mange selon ma religion?
C'est alors, pas... dans la mesure du possible, l'hôpital va faire au mieux pour vous proposer des équivalents. Si vous mangez pas de porc, vous mangez pas de viande, on vous donnera d'autres choses pour avoir un repas équilibré. On va pas pouvoir répondre à toutes les exigences. Si vous êtes bio, si vous êtes vegan, si vous êtes, vous préférez manger malien ou sénégalais ou vietnamien, c'est pas possible. On va faire.
Non, mais ça veut dire ça aussi. C'est-à-dire,
voilà, on va essayer au mieux de répondre à vos habitudes alimentaires, qu'elles soient religieuses, culturelles, voire personnelles. Hein. On peut être allergique, bien sûr. On peut ne pas aimer tel ou tel aliment. Donc, on va faire en sorte de répondre à vos attentes en fonction de ce qui est disponible. Mais attention, c'est pas le restaurant 4 étoiles. Bien et sûr. Vous n'êtes pas non plus en état de tout manger. Car quand vous avez des soins, des traitements, eh bien, il y a des choses qu'il faut ou qu'il ne faut pas manger. Il y a des moments où on a des problèmes de déglutition. Parfois, il faut manger léger la veille d'une intervention ou le temps que votre transit reprenne, etc. Il ne faut pas manger salé, il ne faut pas manger sucré.
Et j'ai revu dans votre livre aussi, pour dire aussi que ça touche toutes les religions, aller à la chapelle et prendre l'hostie alors qu'on a un risque de...
De déglutition, faut s'abstenir. on la mettra aux lèvres, mais on ne l'avalera pas.
Voilà,
c'est tout aussi clair que ça. C'est-à-dire, on n'est pas contre, bien sûr, la communion, mais lorsqu'elle devient danger, l'Église catholique, bien entendu, comme les autres églises chrétiennes, demande l'abstinence.
Eh bien, on en parle avec vous et je sens déjà que, voilà, vous réagissez au standard de France Bleu. Venez nous rejoindre et venez en parler, c'est important. Vous avez eu des soucis à l'hôpital parce que vous avez voulu, voilà, selon votre religion, faire ceci ou cela, on vous l'a interdit. Ou alors, vous êtes soignant et c'est compliqué aujourd'hui de faire face à tout ça. 0810 055 056.
Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu.
Est-ce qu'au nom de la religion, il y a des choses qui vous ont déjà dérangé à l'hôpital, que votre famille, au nom de la religion, ne supporte pas? Alors je dis au nom de la religion, mais quand on regarde en détail le livre de notre grand témoin, elle a parfois bon dos, la religion. Des femmes qui refusent d'être auscultées par des hommes qui refusent que leurs femmes soient auscultées par des hommes, voire même par des femmes d'une autre religion. Des patients qui refusent le don d'organes, des familles qui s'opposent à une autopsie. Ce sont quelques exemples et vous en avez peut-être d'autres. Aujourd'hui, la parole est des deux côtés, les soignants, les patients et puis même du côté religieux. Venez nous dire ce que vous en pensez, ce qui est compliqué, ce qui est impossible, ce qui pose ou a déjà posé problème. 0810 055 056 pour nous rejoindre avec Isabelle Lévy, auteure de Menaces religieuses sur l'hôpital aux éditions Presse de la Renaissance. Et nous sommes avec Dieu Juste, ça tombe bien pour parler de religion.
Bonjour.
Bonjour Dieu Juste, vous êtes en région parisienne?
Oui.
Vous êtes protestant et vous dites on n'a aucun problème de rituel, nous, à l'hôpital.
Non, aucun. Aucun.
Alors, aucun, oui. Alors, certes, mais encore. C'est-à-dire que les protestants n'ont pas d'interprétation qui peut porter à confusion à l'hôpital?
Non, alors, tout dépend des courants dans le protestantisme. Mais en règle générale, c'est vrai que les protestants n'ont pas besoin, par exemple, d'allumer des cierges pour prier. En objet de culte, ils n'ont pas de chapelet, donc c'est pas dangereux. Parce qu'un chapelet peut être dangereux.
Oui, on peut
l'utiliser pour s'étrangler soi-même, étrangler un proche. Donc il peut être interdit à certains endroits. Il n'y a pas de tapis. Un tapis pose problème au niveau hygiène dans certains services et ne sont pas autorisés. Donc un protestant a besoin pour prier de sa Bible, tout simplement. Et en général, pour les protestants, les rituels, c'est il y a des règles qui sont à observer, mais c'est vrai qu'ils sont toujours leur libre arbitre et sont à même de décider pour eux-mêmes ou pour autrui ce qu'il faut faire avec une bonne conscience.
Et vous avez déjà prié, vous, Dieu Juste, à l'hôpital?
Écoutez, c'est ce qu'on fait tout le temps. On prie à l'hôpital, on prie partout, dans la rue. Si quelqu'un est en difficulté, vous savez, madame, des fois, vous rencontrez des personnes qui ont besoin juste d'une parole, une parole de confort. Des fois, on parle juste avec une personne, on lui dit un simple bonjour avec un sourire. Ah ben, des fois, la personne, ça lui donne un peu de morale.
Et ça, on a le droit de demander à un religieux de sa religion d'intervenir à l'hôpital?
Absolument.
Si on sent qu'on a besoin
depuis
d'avoir
1905,
cette parole.
Depuis 1905, c'est pas nouveau, ça vient pas de sortir. Depuis 1905, les aumôniers, alors il faut savoir que nous devons avoir des équipes d'aumônerie à l'image de la patientèle reçue dans l'établissement. Si par exemple vous êtes dans un hôpital où on reçoit des patients catholiques, protestants, musulmans et athées, bien sûr, on doit avoir dans l'équipe d'aumônerie les trois représentants de ces trois religions, obligatoirement, pour répondre à la patientèle voudrait prier avec eux, avoir un conseil, une écoute. Et donc, ils peuvent rencontrer les patients et les familles qui le désirent. Mais ces aumôniers sont là aussi pour répondre aux questionnements des personnels pour mieux comprendre une pratique religieuse et comment éventuellement comprendre un rite et voir le détourner pour permettre le soin. Donc ces aumôniers sont vraiment des personnes ressources, elles sont soumises au secret médical bien entendu et doivent rencontrer les usagers qui le désirent. On ne peut pas exiger de quelqu'un de le rencontrer, ils ne doivent pas taper à toutes les portes et proposer leur service, ils doivent répondre à la demande des usagers préalables.
Mais parfois ils arrivent à désamorcer des situations compliquées que les soignants n'arrivent pas à démêler.
Oui, parce que parfois ils permettent d'éclairer le patient et ses accompagnants sur un rituel en disant oui, normalement il faudrait jeûner, normalement il faudrait faire cette prière, normalement il faudrait faire ce rituel, mais là vous êtes malade, donc... vous, au lieu de prier debout, vous allez pouvoir prier assis ou couché parce que votre état de santé ne vous permet pas de vous mettre debout.
Un exemple qui me revient dans votre livre, une patiente juive qui est enceinte, son enfant a priori ne va pas survivre, c'est ça ? On lui dit il faudrait peut-être envisager une IVG. Là, il a fallu désamorcer aussi. Seule, elle ne pouvait pas prendre.
Dans le bouquin, c'était une patiente musulmane, mais en même temps, ça changerait rien. C'est-à-dire que dès que la vie de la mère est en danger, on doit cesser toute grossesse en cours. Et donc là, c'était une dame qui avait une hypertension gravidique, il fallait absolument arrêter, elle avait sa vie en danger, elle était mariée, elle avait une petite
mais
fille.
Mais le personnel soignant n'y arrivait pas.
Si, le médecin essayait de la convaincre, mais il avait qu'une parole de blouse blanche et elle voulait entendre la parole de sa religion, d'où le pourquoi on a appelé le docteur Dalil Boubaker, recteur de la mosquée de Paris, qui par téléphone a réussi à la convaincre de mettre un terme à cette grossesse. Non pas pour le plaisir d'eux, mais parce que sa vie était en danger dans quelques jours, elle mourrait si on n'intervenait pas. Donc les religions sont beaucoup plus à l'écoute de la situation, mais parfois le fidèle ne connaît pas ses règles, toutes ses règles. D'où le pourquoi il est important que les aumôniers soient présents ou qu'on puisse faire appel à eux en ville et bien sûr qu'ils soient de meilleurs conseils. Parce qu'attention, ils doivent toujours avoir des paroles qui accompagnent le soin et non pas qui l'empêchent.
Merci Dieu juste d'avoir ouvert cette émission.
Merci
et on continue de parler de la religion à l'hôpital puisque c'est le sujet d'On se dit tout.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
Des mères qui refusent un pédiatre homme pour leur petite fille, un homme qui refuse d'enlever son slip alors qu'il doit pourtant se faire opérer des hémorroïdes, un homme qui veut faire la prière à même le sol alors qu'il sort tout juste du coma. Voilà quelques exemples piochés dans le livre de notre grand témoin Isabelle Lévy. On parle religion et hôpital aujourd'hui dans On se dit tout quand la religion prend un peu trop de place au détriment des soins et de la vie parfois aussi, quand il faut des minutes voire des heures de négociation pour faire certains de ces soins alors qu'on sait à quel point les hôpitaux sont déjà saturés. Et puis, est-ce vraiment possible de faire entrer toutes les religions à l'hôpital ? Pourquoi y a-t-il des catholiques permanents, pas d'imams par exemple ? On parle de tout ça avec vous au 0810 055 056 pour apporter votre témoignage du côté des soignants ou des patients. Et nous sommes dans le Loiret avec Christiane. Bonjour Christiane.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour.
Vous avez travaillé pendant 38 ans comme aide-soignante.
Tout à fait, je continue encore même maintenant. Encore.
Ah bah oui, alors très bien, vous êtes à fond dedans. Est-ce que vous avez remarqué que c'est compliqué aujourd'hui la religion et l'hôpital ?
Oui, tout à fait, l'un comme l'autre de toute manière. Surtout l'hôpital devient de plus en plus difficile avec peu de monde, restreint. Ça de ce côté-là, c'est difficile. Moi, je le ressens en vieillissant, je le ressens. Hein. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Par contre, pour l'émission d'aujourd'hui, comme je disais, j'ai 38 ans dans un service de chirurgie viscérale, qui n'était pas évident parce qu'il fallait s'adapter aux religions, enfin, beaucoup de choses. Allô ?
Oui, on vous écoute.
Excusez-moi, j'ai cru qu'on n'entendait pas.
Ah ben non, on vous écoute.
De par la pathologie déjà en viscérale, bien souvent, on avait plusieurs régimes à la fois, plus aussi pour les gens par rapport à leur religion, qui n'était pas facile à adapter, mais on essayait de faire au maximum pour que ça marche beaucoup, surtout pour les gens... musulmans, athées, bon, plusieurs, hein, même encore maintenant. Hein, mais c'est un respect à tous ces gens, on essayait quand même d'amener au meilleur de, pour eux-mêmes, comme pour nous aussi, de faire au mieux, pour qu'ils aient leur, au niveau repas, je parle.
Alors là, vous parlez des repas, mais au niveau des soins, est-ce que parfois ça a été compliqué? Est-ce que vous, vous trouvez que c'est compliqué?
Oui, ça a été assez compliqué, même pour les soins. C'était pas facile, et même par rapport aux familles, tout ça. C'était pas évident, mais avec la négociation et parler avec eux, on arrivait toujours à joindre les deux bouts, comme je pourrais dire, à ce que tout le monde soit OK, quoi. En gros, hein.
Il faut discuter, et parfois voilà. Il faut batailler un petit peu, mais ça marche.
Oui.
L'alimentation, effectivement, Isabelle.
Alors
Lévy,
oui,
on en
dans
parle
la
beaucoup.
Mesure du possible, l'hôpital doit s'adapter, donc aux pratiques alimentaires des patients, mais bien entendu toujours dans le respect des préconisations médicales. C'est-à-dire que bien sûr en chirurgie viscérale on a des régimes stricts à observer suite à des interventions sur l'estomac, etc. On peut pas tout manger. Maintenant bien entendu un patient qui mange pas de porc, qui mange pas de viande, qui mange pas telle ou telle chose, on va lui mettre autre chose sur son plateau. Mais dans la mesure du possible. Voilà. Alors, est-ce que les religions ont leur place à l'hôpital? Oui, bien sûr, parce que en France, nous avons cette liberté de conscience, et c'est pas parce qu'on est hospitalisé qu'on n'a plus le droit de pratiquer une religion, alors que c'est une liberté pour tous, pour toute personne qui a les pieds sur le sol français. Mais toujours dans les limites de la loi. Nous sommes bien d'accord, ou de la réglementation. Donc oui, à l'hôpital, je peux pratiquer ma religion. Oui, je peux demander un aménagement de mes repas dans la mesure du possible par rapport à mon état de santé, par rapport à ce que l'hôpital peut me proposer. Oui, je peux aussi prier dans ma chambre. Oui, je peux recevoir un aumônier, enfin un représentant d'une religion. Oui, je peux pratiquer ma religion. Mais il ne faut pas que ça soit un empêchement aux soins. Il ne faut pas passer son temps à négocier. Parce que je suis désolée, madame Christiane, vous n'avez pas, c'est pas votre boulot de négocier. Votre boulot, c'est d'être soignante et vous êtes payée pour soigner les personnes. Et les autres viennent vers vous pour être soignés. Donc, il y a un moment, la négociation n'a pas son... On n'a pas le temps de cela.
Merci Christiane d'avoir été avec nous sur France Bleu. S'il y a d'autres soignants qui veulent nous rejoindre, évidemment, vous êtes les bienvenus. On parle de religion et hôpital aujourd'hui dans On se dit tout avec vos appels, vos témoignages au 0810 055 056.
Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Hôpital et religion au pluriel, c'est le sujet d'On se dit tout sur France Bleu. C'est politique, c'est polémique, c'est important d'aborder le sujet. On sait que la France est un pays laïque et dans ce cadre-là, le personnel soignant doit être neutre, ne pas afficher sa religion. Dans le même temps, tous les patients doivent garder leur liberté religieuse, mais concrètement, parfois ça pose problème. Refuser qu'un homme nous examine, par exemple, quand on est une femme. Oui, on a le droit en vertu du choix du patron. Praticien, mais sauf s'il y a urgence. Alors, est-ce qu'on peut refuser une transfusion sanguine pour son enfant? La réponse est non. Ça paraît évident dit comme ça, mais ça amène souvent à de longues négociations à l'hôpital dans des moments où on n'a justement pas le temps de négocier. Venez nous rejoindre pour en parler au 0810 055 056 avec Isabelle Lévy, spécialiste des religions. Elle est notre grand témoin et nous sommes à Grenoble avec Isabelle. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous allez nous raconter une anecdote qui est arrivée avec votre papa à l'hôpital.
Oui, voilà. Donc, c'était il y a quelques années. Il était en soins intensifs et il refusait de manger les plateaux. Et parce que, voilà, c'était vraiment de trop mauvaise qualité. Et la réflexion, ça a été, oui, il mange pas les plateaux parce qu'il est juif. Il faut qu'on fasse des plateaux. Alors, ils ont dit, bon, on n'a pas de porc important. Alors qu'on n'avait strictement rien demandé. On est totalement laïque, en tous les cas à l'extérieur. La religion, c'est une, enfin pour nous une affaire tout à fait privée. Et en plus, chez nous, on n'a jamais fait ce choix-là, en tous les cas. Et on nous a dit plusieurs fois, oui, c'est parce qu'il est juif, alors qu'on n'avait strictement rien demandé. Alors il se trouve que le prénom de mon papa était Moïse. Et voilà, donc ça avait cette connotation-là. Et ça m'a mis vraiment dans un... Ça m'a mis extrêmement mal à l'aise, voilà. C'est ça que je voulais témoigner.
Comment ça se passe? Alors là, je vais poser la question à Isabelle Lévy. Quand un patient arrive, on ne va pas lui demander sa religion, forcément.
Alors, on ne doit pas lui demander, mais on doit la respecter. Alors, c'est très compliqué, parce que ça, c'est très français. Il faut faire les choses sans les faire. Donc, comment fait-on? Eh bien, on demande au patient s'il a quelques habitudes alimentaires qu'il désire respecter. Il y a des aliments qu'il aime ou qu'il n'aime pas ou qu'il ne mange pas. Et s'il nous dit qu'il mange pas de porc, qu'il mange pas de viande, qu'il mange pas telle ou telle chose, on le note et bien entendu on fait au mieux pour le respecter. Alors maintenant, la manière dont s'est pris ce personnel avec votre papa, c'est absolument inadmissible, parce qu'on doit pas le traiter de juif, on doit pas décider parce qu'il a un prénom de telle ou telle consonance de l'inscrire dans telle ou telle religion. On doit poser la question, qu'est-ce qui ne vous convient pas dans ces repas? Voilà, donc ça c'est important de demander les choses et puis éventuellement de rectifier si on le peut. Par contre, ce que j'aurais conseillé à Isabelle, mais là c'est beaucoup trop tard, c'est d'écrire à la direction de l'établissement pour en informer de la manière un petit peu désobligeante que ce personnel vous a parlé. Par contre, c'est vrai qu'à l'hôpital, on peut avoir parfois des repas cachers ou halal aux patients, mais ils sont pas toujours proposé dans tous les établissements et pas à tous les patients. Pourquoi ? Parce qu'ils coûtent cher. Ils coûtent cher et puis en même temps, ils sont souvent... Il ne correspond pas au régime que le patient doit suivre parce qu'il est malade. Il est peut-être cachère ou il est peut-être halal, mais il est trop salé, il y a trop de graisse, ou bien il n'est pas mixé. Enfin bref, il ne convient pas au malade. Donc on peut pas le proposer. Donc c'est pas non plus la limite. D'où pourquoi on fait énormément attention à la composition. Par contre, on ne doit jamais se fier au faciès du patient, à sa nationalité d'origine, à son prénom ou à son nom de famille pour savoir de quelle religion il est. Je peux m'appeler Christian Dupont et être complètement athée. Ou être bouddhiste, ou être musulman, pourquoi pas. J'ai le droit de me convertir en France. Donc on n'a pas le droit de vous mettre une étiquette sans vous le demander auparavant ce que vous êtes et surtout ce que vous voulez manger.
On a énormément de messages sur les réseaux sociaux. Je vous en lis quelques-uns, parce qu'on pourra pas tous les lire malheureusement. Franca nous dit « Ce programme n'est pas nouveau. J'ai commencé à travailler en 63 et déjà nous étions amenés à rencontrer ces difficultés. Soignante en pédiatrie, en chirurgie, en gériatrie, puis enseignante et directrice d'un organisme de formation. J'ai durant toute ma vie professionnelle, travailler et enseigner l'écoute et le respect des valeurs et des croyances de chacun. J'ai constaté au fur et à mesure des années la difficulté, le désarroi des soignants face au refus de soins de plus en plus affirmés. Mais je dois reconnaître que le temps formation accordé dans ce domaine est bien maigre. » Voilà un des messages. Et il y en a beaucoup d'autres. Et attention, je vous le dis au passage, vous avez des messages quelquefois un petit peu limites. On n'est pas là pour taper sur une religion.
On n'est pas là pour polémiquer. Mais c'est vrai que moi-même, étant conférencière formatrice en milieu hospitalier, on accorde de moins en moins de temps aux soignants pour se former sur le sujet de la prise en compte des croyances des patients et des accompagnants.
Merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous et on continue d'en parler aujourd'hui. La religion et l'hôpital, c'est le sujet dont on se dit tout.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Tous les jours, patients et soignants sont confrontés au problème de la religion au sein de l'hôpital, avec des problèmes simples et parfois anodins, comme d'autres beaucoup plus problématiques, surtout quand il s'agit d'urgences vitales. Comment respecter ses croyances et ses pratiques religieuses sans aller à l'encontre de sa vie ou de celle d'autrui? C'est pas simple et c'est visiblement de plus en plus compliqué. Vous êtes aide-soignant, infirmier, médecin, chirurgien et vous avez déjà été confronté à un problème lié à la religion ou l'interprétation de la religion à l'hôpital. Venez nous rejoindre au 0810 055 056, même chose du côté des patients et puis même chose du point de vue des responsables religieux. C'est Isabelle Lévy, auteur de « Menaces religieuses sur l'hôpital » aux éditions Presse de la Renaissance, qui est notre grand témoin. Et je vous le disais, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages sur la page Facebook de France Bleu. André nous dit « C'est pas toujours le patient ou la patiente qui refuse les soins pour raisons religieuses, c'est bien souvent le père ou l'époux qui s'interpose quand ce n'est la famille entière qui pose alors des problèmes de sécurité ou d'accès aux soins pour la personne malade. Ça devient alors un problème légal car la volonté même du patient n'est pas prise en compte. C'est beaucoup plus compliqué qu'un oui ou qu'un non. » Là, on pense que André, je pense qu'elle travaille en milieu hospitalier.
Elle est du terrain. Oui. Ça sent le vécu. Alors, en effet, c'est pas les accompagnants qui doivent se positionner pour ou contre une prise en charge, par exemple, par un praticien ou pour un soin. C'est le patient lui-même, s'il est majeur. Donc, bien entendu, les accompagnants peuvent dire leurs mots, mais on doit entendre et suivre la volonté du patient concerné. Malheureusement, parfois, on lui laisse pas la parole. Mais il est important aux équipes soignantes, si elles m'entendent, de bien prendre en compte la volonté du patient et non pas de tous ceux qui accompagnent. Voilà, ça c'est un point important. Maintenant, il faut savoir que les religions considèrent le refus de soins pour soi comme un suicide, le refus de soins pour autrui comme un meurtre. Le suicide comme le meurtre, c'est bon de le rappeler, surtout actuellement, sont strictement interdits par toutes les religions. Donc quelqu'un qui refuse un soin à son épouse, par exemple, ou à sa fille, eh bien c'est comme s'il commettait un meurtre, puisqu'il empêche le soin et que peut-être cette absence de soin peut entraîner la mort ou peut entraîner une perte d'intégrité physique ou mentale. Un soin pour soi aussi, c'est une forme de suicide, c'est interdit. Donc il est bon de rappeler que ce genre de situation, c'est pas du tout, faut pas appuyer les religions ils sont pour rien, c'est les mauvaises interprétations des religions, car toutes les religions exigent qu'on transgresse tous les interdits religieux pour sauver une vie ou l'intégrité physique ou mentale. Je crois que je n'aurai de cesse de le répéter, il faut que ça soit absolument entendu par tous.
Est-ce qu'on peut l'afficher, ça, à l'hôpital? Est-ce qu'on peut le... tout à l'heure, on avait un témoignage qui disait on manque de formation, les personnels soignants ne sont
pas
formés.
Alors aujourd'hui, actuellement, par exemple, dans de très nombreux hôpitaux, et pas seulement dans les services de gynéco-obstétrique, on rappelle que nos équipes de soignants et de médecins sont mixtes, hommes et femmes, et que si l'on refuse d'être pris en charge par l'un ou par l'autre, et ben malheureusement, on ne pourra pas être accepté dans cette consultation, dans ce service d'urgence. Donc, c'est important maintenant de rappeler que les équipes sont mixtes, on ne peut pas les doubler, on ne peut pas doubler tous les postes, et que si on vient aux urgences, on ne peut déjà pas choisir son praticien, on prend celui qui est de garde, c'est déjà le minimum, mais en même temps, on ne choisit pas son praticien, mais on ne choisit pas non plus l'équipe qui va nous prendre en charge. Et quand on est dans un service d'hospitalisation, on peut dire, je voudrais que Madame Dupont suive mon dossier médical, mais il faut savoir que en dehors de Madame le docteur Dupont, il y a 20-30 personnes autres qui vont me prendre en charge pendant mon séjour d'une semaine à l'hôpital. Ça sera d'autres médecins qui auront d'autres spécialités, des soignants, etc. Et je ne vais pas toujours pouvoir exiger des femmes. Donc je vais devoir, parce que je n'ai pas le choix, d'être pris en charge par des messieurs et par des femmes qui font tous extrêmement attention au respect de la pudeur. Même si je suis athée, on respecte la pudeur de chacun. Et donc, on se doit d'accepter cela. Si on n'accepte pas d'être pris en charge par des personnels mixtes, voire des personnes d'autres religions, voire même des personnes d'autres couleurs de peau, je vous assure que c'est la réalité sur le terrain, c'est complètement inadmissible. On n'a peut-être rien à faire à se présenter à l'hôpital public.
C'est ce que nous dit Bridget. Elle nous dit, à l'heure où la pénurie de médecins et soignants est critique, ce n'est pas le moment d'exiger d'avoir une femme ou un homme, telle ou telle autre religion, se dévêtir ou pas. Ce sont ces personnes les plus exigeantes qui en deviennent irrespectueuses alors que les urgences débordent. Il nous reste quelques minutes pour échanger ensemble sur ce sujet un peu épineux, c'est vrai, un peu tabou aussi. On parle de religion et d'hôpital dans On se dit tout au 0810 055 056.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
Est-ce qu'au nom de la religion, il y a des choses qui vous ont déjà dérangé à l'hôpital ou que vous n'avez pas pu faire à l'hôpital? On en parle avec vous et notre grand témoin, Isabelle Lévy, auteure de Menaces religieuses sur l'hôpital aux éditions Presse de la Renaissance. Et Marie-Élise est avec nous depuis la Loire. Bonjour Marie-Élise.
Bonjour.
Bonjour.
Alors on disait que parfois on n'a rien demandé et puis la religion s'invite dans notre chambre. Ça a été le cas pour vous?
Tout à fait. Moi j'ai les dames patronesses qui sont passées. Qui sans que je les ai demandé, qui se sont un petit peu imposés, et puis jusqu'à me demander ce que j'avais comme maladie, ce qu'ils ne regardaient, qu'ils ne regardaient pas du tout. Donc moi je trouve que c'est la religion catholique là que je parle. Moi je suis laïque un peu, voilà, un peu athée, et j'ai trouvé ça aberrant.
Alors madame, c'est absolument en effet inadmissible, mais en même temps c'est hors la loi. Car ces dames n'ont pas le droit de rentrer dans les chambres des patients hospitalisés sans leur autorisation préalable. C'est-à-dire que vous auriez dû demander aux infirmières éventuellement la visite de ces dames bénévoles catholiques ou une infirmière aurait dû vous les proposer, ces visites, et si vous refusiez ces visites, elles n'auraient pas dû rentrer dans ces chambres. En plus, même quand elles rentrent dans les chambres, donc c'est parce qu'elles ont été autorisées préalablement, elles n'ont en effet pas à connaître votre situation sociale ni votre situation médicale. Donc ces dames ont largement outrepassé leurs droits. Donc il serait bon de rappeler dans cet établissement ces bénévoles restent à leur place, c'est-à-dire aux places que la loi leur donne, c'est-à-dire d'aller rendre visite uniquement les patients qui désirent les recevoir dans leur chambre. Je vous rappelle que la chambre est un lieu privé et donc on n'a pas le droit d'imposer sa présence. Évidemment, le personnel soignant et médical se doit de rentrer dans cette chambre, évidemment, mais tout ce qui est aumônier et bénévole, ils ne doivent rentrer que sur autorisation préalable.
Vous parliez de la loi aussi. Tout le personnel soignant n'a pas à afficher sa religion.
Alors quand on dit personnel soignant, c'est l'ensemble des personnels, qu'ils soient soignants, médicaux, administratifs et techniciens, que l'on soit titulaire ou en courte duration, ou même qu'on ait un contrat privé et qu'on travaille à l'hôpital public. Par exemple, si je suis intérimaire infirmière, j'ai un contrat privé. Eh bien, quel que soit mon contrat, privé-public, quelle que soit ma fonction, j'ai l'obligation légale de n'avoir aucun signe religieux apparent. Donc tout ce qui est médaille religieuse, que ce soit une croix, que ce soit une étoile, que ce soit un croissant, un bouddha, etc., je laisse au vestiaire, comme je laisse une kippa au vestiaire, comme je laisse le voile islamique, et rien ne doit remplacer quoi que ce soit, c'est-à-dire c'est pas une charlotte opératoire qui doit, ou un foulard, ou un bandana, qui doit remplacer ce voile ou cette kippa. Absolument rien sur la tête, sauf exigence professionnelle.
Non, voilà. C'est important de le rappeler.
Il est bon de le rappeler, parce que, en effet, le patient a le droit de pratiquer sa religion à l'hôpital parce qu'il peut pas sortir librement de l'hôpital, puisqu'il est malade, son état l'en empêche. Il y a des limites à observer. On en a donné quelques-unes très rapidement pendant l'émission. Mais en ce qui concerne le personnel représente l'État et l'État n'a pas de religion. Donc, sur son lieu de travail, le personnel n'a pas le droit de porter des signes religieux sur son lieu de travail.
Est-ce que menace religieuse sur l'hôpital, vous l'avez envoyée à la ministre de la Santé?
Pas l'actuelle. Aux précédentes, au pluriel, oui, mais sans écho quasiment. C'est-à-dire, tout le monde me dit, c'est bien ce que vous faites, continuez, mais il ne se passe pas grand-chose, j'avoue, sur le terrain. Comme le disait la dame tout à l'heure pour la formatrice, on donne très peu de place de formation sur ce sujet dans les hôpitaux. Voilà.
Et pourtant, ça pose problème.
Il y a du
bien.
Boulot. Je peux vous assurer qu'il y a de plus en plus de travail à faire.
Marie-Élise, merci d'être venue témoigner, vous aussi. Et on voit bien que ça concerne toutes les religions
absolument
à l'hôpital.
Toutes, absolument toutes.
Et pas que l'islam, puisque les réseaux sociaux, on parle essentiellement de ça. Non. Et on n'avait surtout pas envie de stigmatiser une religion plus qu'une autre. Sûrement pas.
Franchement, toutes sont concernées.
Et le mieux, c'est d'aller voir, de lire votre livre. C'est vraiment passionnant. Ça prend du temps un petit peu. Il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vraiment très enrichissant. Ça s'appelle « Menaces religieuses sur l'hôpital ». L'enquête d'Isabelle Lévy, c'est aux éditions Presse de la Renaissance. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci pour tous vos témoignages, vos appels et vos témoignages également sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain avec un autre thème. C'est presque déjà le printemps, en tout cas sur le calendrier ça l'est. Mais dans les magazines féminins, c'est bel et bien le printemps et on voit déjà les régimes détox, les régimes de printemps, les régimes avant l'été. Eh bien, on va en parler demain avec vous qui en avait marre des régimes, qui n'arrivaient pas forcément à maigrir. Eh bien, on en parlera ensemble, on fera un petit peu le point sur la situation avec vous, à la même heure sur France Bleu. Et puis bien sûr, n'oubliez pas, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur francebleu.fr.